Alors maintenant, on va passer à la seconde partie de mon exposé, n'est-ce pas ? Que sont devenus, une fois installés sur tout le bassin méditerranéen, que sont devenues ces populations ? Comment ont-elles évolué ? Et notamment, comment ces sociétés ont pu se, devenir de plus en plus complexes ? C'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les inégalités, progressivement, ont gagné, avec des personnages importants, influents, et des personnages qui les témoignent. Mais je vais essayer de vous brosser un peu cette situation. D'abord, il faut savoir que pendant le temps des derniers chasseurs-cueilleurs, autour de 6000 avant notre ère, et pendant le temps des premiers agriculteurs, en gros jusque vers 4500 avant notre ère, en Méditerranée occidentale en particulier, nous manquons complètement de données. Il y a très peu de sépultures. Au point que nous nous demandons si la norme, ça n'était pas, lorsque l'individu était décédé, n'était pas de se débarrasser carrément du cadavre. Il y a peu de sépultures. Là, vous en avez une, c'est une sépulture de la transition mésolithique-néolithique, c'est-à-dire dernier chasseur-cueilleur. Vous avez un personnage qui est enterré dans une fosse, avec les restes de plusieurs sujets qui ont été réduits. C'est-à-dire qu'on avait dû les enterrer avant, et puis, pour faire de la place au dernier défunt, on a fait un temps, en quelque sorte, des défunts précédents pour installer celui-ci. À cette époque-là, donc, très peu de tombes. Ça n'est que vers 4500 avant notre ère, 4700, que l'on voit apparaître en Méditerranée occidentale les premières nécropoles. Vous avez ici, par exemple, les trois tombes d'une nécropole qui a été fouillée à Barcelone, la caserne San Pau, et qui date des environs de 4700-4500 avant notre ère. Alors, ces tombes sont intéressantes parce que elles recèlent des mobiliers. C'est-à-dire qu'on peut commencer en regardant, si vous voulez, les mobiliers qui accompagnent ces défunts, c'est-à-dire les équipements des personnages qui sont enterrés, on peut voir des nuances, des différences de statut entre les individus. Alors, qu'y a-t-il dans ces tombes? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des colliers de coquillages, des bracelets de coquillages, et il y a également souvent des bouteilles, des céramiques décorées ou non. De sorte que là, on commence à avoir quelques idées sur les différences de statut aux environs du 5e millénaire avant notre ère. Alors, vers cette époque-là aussi, on voit apparaître des types de sépultures, des nécropoles avec des types de sépultures assez particuliers. En Sardaigne, par exemple, on voit apparaître les premiers hypogées, c'est-à-dire des tombes qui sont creusées dans le roc, dans lesquelles au début il n'y a qu'un individu, ensuite il y en aura plusieurs, dans les temps ultérieurs, un seul individu, et cet individu est accompagné de pièces souvent de prestige. Alors souvent, dans ces sépultures de Sardaigne, du milieu du 5e millénaire, on voit par exemple des statuettes comme celle-ci, qui sont sculptées dans la pierre, parfois dans l'os, et qui peuvent accompagner le défunt, probablement pas n'importe quel défunt. Toujours à cette époque-là, aux alentours de 4500, on voit apparaître également d'autres nécropoles qui sont constituées non pas de tombes en hypogée, mais de tombes en coffre, en caisson de pierre. Voyez, c'est le cas ici. Ici, c'est également une nécropole sarde. Et ici, c'est une nécropole du Roussillon, des Pyrénées-Orientales. Voyez, on est vers 4500 avant notre ère. Et dans ces coffres, il y a un ou deux individus, pas plus, avec des haches polies, qui est l'instrument typique de cette époque-là, du néolithique, avec des couteaux de silex, des lames de silex, avec des objets de parure, comme par exemple des colliers de perles en stéatite. C'est le cas sur la nécropole d'Arzachena, en Sardaigne, que vous avez vu tout à l'heure, avec des espèces de masses perforées qui devaient être fichées probablement dans des manches et qui étaient très certainement des objets de prestige. Vous voyez, des objets qui connotaient le statut de certains individus. Il peut y avoir aussi des haches polies de très grande qualité. Celles-ci viennent d'une tombe de Catalogne, de la région de Gérone, et c'est une omphacitite alpine. Donc, vous voyez, ça, j'attire votre attention là-dessus. Ne vous imaginez pas que cette première civilisation paysanne qui élevait et qui cultivait vivait repliée en vase clos. Peut-être étaient-elles authentiques d'un point de vue économique, mais ensuite elles échangeaient très largement. Autrement dit, souvent leurs matériaux venaient, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, souvent les matériaux qu'elles utilisaient venaient de régions très lointaines, distantes parfois de plusieurs centaines de kilomètres. Par exemple, dans cette tombe de la région de Gironde, eh bien, on a gratifié le défunt d'une hache, n'est-ce pas, qui venait de la région alpine. Et donc, ces sociétés sont des sociétés de l'échange, il faut bien en prendre conscience. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une partie du contenu d'une tombe qui a été fouillée au XIXe siècle, du Gers, à Pouya, dans le Gers. On a retrouvé là, dans cette tombe, elle est un peu plus récente, elle doit dater des environs de 3500 avant notre ère, à peu près, donc milieu du 4e millénaire. On trouve donc des haches d'origine alpine. On retrouve, il y en a ici une, mais plusieurs grandes lames de silex, n'est-ce pas, de grands couteaux, qui sont fabriqués dans un silex qui vient de la région de Vaucluse, et puis des canines de sanglier, évidemment, qui devaient servir de pendentif, et puis cette espèce de diadème, de bandeau en or, qui est probablement une importation, peut-être à partir de l'Europe centrale. Donc vous voyez ces grands courants de circulation qui irriguent l'Europe pratiquement dès le 5e, 4e millénaire. Nous arrivons maintenant au 4e millénaire, donc en gros entre 4000 et 3500 avant notre ère, et je vous montre, à partir de quelques exemples, comment certains individus pouvaient être déjà des individus probablement importants sur l'échelle sociale de l'époque. Ce sont des sépultures qui ont été fouillées dans la région de Barcelone. Alors voyez, ce sont des personnages donc enterrés dans des fosses, avec des céramiques, mais avec des objets qui peuvent être soit de l'obsidienne il n'y en a pas du tout, ni dans la région de Barcelone, ni dans le milieu de la France. Cette obsidienne vient de Sardaigne, de la région du Monte Archi. Soit avec des arches polies, qui sont des arches polies, qui viennent des Alpes, soit avec des lamelles de silex, qui sont des lamelles qui viennent d'un site qui se trouve dans la vallée du Rhône, pas, tout cela bien étudié aujourd'hui. Donc, vous montrez que ces individus sont gratifiés d'ornements ou d'objets qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Donc, je confirme ce que je dis à moi. Donc, voyez également d'autres. Voyez, bon, voilà ici une lamelle d'obsidienne, des trapèzes d'obsidienne, des nucléi, qui sont des nucléi en silex blanc du Vaucluse. Vous voyez donc ces circulations d'objets qui connotent évidemment la position sociale de ces individus. Voilà encore un autre sujet enterré avec tous ces mobiliers et également beaucoup de perles. Alors les perles, elles sont autochtones, je dirais, en Catalogne. Elles proviennent à côté de Barcelone de toute une série de mines. Ce sont des mines de varicite, qui est un minéral hydraté vert, qui a été exploité au néolithique et qui a servi à faire des colliers souvent absolument extraordinaire, vous en avez quelques-uns ici. Et vous avez ici à côté l'une de ces mines. Le site se trouve à Gavà, c'est pas très loin de Barcelone, et il y a là, sur un certain nombre d'hectares, toute une série de puits de mines, datées entre 4000 et 3500 avant notre ère. Donc, les productions, les objets, évidemment, ont servi à orner les personnages importants de la Catalogne à cette époque-là, mais aussi au-delà. Nous avons dans le milieu de la France, ici, des gisements, des sites archéologiques qui ont donné des perles en varicite qui proviennent des mines de la région de Barcelone. Donc vous voyez, le silex qui vient du Vaucluse qui va à Barcelone, les perles qui viennent de Barcelone qui viennent à la Midi, vous voyez ces grands courants de circulation qui existent à ce moment-là. Et nous allons maintenant aborder le dernier point, c'est-à-dire toujours ces questions de société en Méditerranée occidentale. Alors, je prends la situation maintenant vers la fin du néolithique, vers 3000 avant notre ère. Et vous avez d'une manière très schématique sur cette carte comment se présente à ce moment-là l'espace méditerranéen. C'est-à-dire, voyez comment les choses sont allées vite. L'Égypte déjà est passée dans l'histoire. Elle a connu le néolithique très tard, et voilà qu'ensuite elle a connu une telle accélération sociale que les premiers pharaons sont déjà présents vers 3000 en Égypte. Vous avez ici, dans le Levant et dans toute la zone égéenne, on est déjà passé à l'âge du bronze. Autrement dit, on est sorti du néolithique. On connaît les premiers alliages, n'est-ce pas, le cuivre et l'étain qui donnent le bronze, et on connaît surtout les premières cités, les premières villes. Et ici, au contraire, en Méditerranée occidentale, on en est à un stade qu'on appelle le chalcolithique, c'est-à-dire en fait la fin du néolithique. Voyez donc comment, autour de 3000 avant notre ère, 3000 à 2500, cette Méditerranée n'est une Méditerranée néolithique que pour sa partie occidentale. Toute la partie orientale, déjà, est passée soit à l'âge du bronze, soit déjà carrément à l'histoire. Alors, quelques exemples. Alors, pour la Méditerranée orientale, eh bien déjà, on en est à des familles qui gèrent en quelque sorte des localités qui sont, qu'on appelle parfois des familles royales. Il n'y a pas d'écriture, et encore, sauf en Égypte et en Mésopotamie. Des familles royales, c'est-à-dire des personnages importants qui gèrent des localités, qui gèrent le commerce et qui se font enterrer dans des tombes, soit individuelles, soit des tombes collectives. Vous avez par exemple ici une tombe d'Aslan Tepe en Turquie, avec des céramiques, avec toute une série d'armes ou de récipients en métal qui accompagnent le défunt. Ici, vous avez des objets qui proviennent des tombes d'Al-Jaoudou sur le plateau anatolien, vers 2006-2005 avant notre ère. Ce sont des objets en bronze la plupart du temps, et ces objets devaient être probablement, c'était des enseignes qui devaient être fichées dans des mâts et promenées lors de processions, sans doute. Et ici, vous avez un collier d'objets en or qui provient d'une des sépultures, d'un des trésors de Troie, la deuxième ville de Troie, vers 2005 avant notre ère. Qu'est-ce qui va se passer pratiquement dans pratiquement toute la zone méditerranéenne? Au troisième, à partir de 3005 jusqu'à 2005, on va voir se développer des sépultures collectives, soit en hypogée, soit en mégalithe. Ça, c'est un trait typique de la Méditerranée orientale et surtout occidentale au troisième millénaire. Alors, ce sont des hypogées au début. Là, vous avez une petite tombe de Malte, à côté d'un grand hypogée qui se trouve ici, qui remonte déjà aux alentours de 4000 avant notre ère. Il y a deux petites chambres, et dans chacune de ces chambres, il y avait une vingtaine de sujets enterrés. Là, vous avez des entrées d'hypogées, c'est-à-dire tombes creusées dans l'Europe, de la culture d'Odieri, en Sardaigne, aux alentours de 4000-3005 avant notre ère. Et par la suite, ces hypogées, non seulement vont gagner l'essentiel de la Méditerranée occidentale, mais vont devenir des monuments souvent d'envergure. Alors, je vous ai pris deux exemples. D'abord, les fameuses tombes d'Arles, hein, les grands hypogées d'Arles, qui sont des grands hypogées qui font une vingtaine de mètres de long et dans lesquels on a enterré, évidemment, des tas de sujets. Ça, c'est l'entrée d'un de ces hypogées. Je vous rappelle qu'Arles, il y a également ce qu'on appelle la grotte des fées, qui est l'un des plus grands, qui est le plus grand hypogée français. C'est un hypogée qui fait 43 mètres de développement, quelque chose de, évidemment, un monument absolument très impressionnant. Ou toute une série d'hypogées que l'on retrouve, par exemple, au Portugal, les hypogées de Palmela ou les hypogées de Carenque, qui sont des sépultures collectives. Alors, les sépultures collectives de cette époque-là peuvent très bien être des hypogées, mais ça peut être évidemment aussi des mégalithes, bien entendu. Alors, les mégalithes que nous connaissons dans le milieu de la France, par exemple, les 3000 mégalithes qui se trouvent, c'est pas, les dolmens qui se trouvent entre le Rhône et le Quercy, qui est une des plus fortes densités mondiales de tombes mégalithiques. Ce sont souvent des petits monuments, mais il peut y avoir aussi de très grands monuments, comme le dolmen de Pépieux dans l'Aude, qui est le plus grand dolmen du sud de la France, qui a 24 mètres de développement. Ou, pour rester toujours sur un exemple local, le dolmen de Sainte-Gène à Lormes-Minervois. Vous voyez cette tombe avec un couloir, ensuite une première antécella, une deuxième antécella, et imaginez qu'à l'origine, tout cela était recouvert par des tables mégalithiques et l'ensemble était recouvert par un tumulus. Ce que vous voyez là, c'est une tombe qui est tronquée d'une certaine façon, et vous devez imaginer cette espèce de grand tumulus qui recouvrait ce monument auquel on accédait par cette petite porte ici. Là-dedans se trouvaient les restes d'environ 400 sujets enterrés. Ces monuments ont été utilisés en effet pendant très longtemps, pratiquement tout au long du troisième millénaire. Alors parmi ces grands monuments mégalithiques aussi, les grands monuments d'Andalousie. La Cueva de Menga, qui est un monument à Antequera, qui est un des monuments, les plus grands monuments mégalithiques d'Europe de l'Ouest, ou encore ces monuments que l'on appelle les les tolosses, parce qu'elles sont pratiquement toutes construites en pierre sèche. Ça, c'est toujours en Tequera, la tolosse del Romeral, vers, construite aux alentours de 3000 avant notre ère, avec une clé de voûte que vous avez ici, qui se trouve à 4 mètres de haut par rapport au sol, un monument absolument extraordinaire, au point que pendant longtemps, on a pensé que c'était des architectes égéens, mycéniens, qui étaient venus construire ces bâtiments-là. Pas du tout. Les tolosses mycènes, elles ne datent pas avant 1500 avant notre ère, alors que ces monuments datent de 3000 avant. Donc ce sont des inventions locales dues évidemment au talent des architectes de l'époque. Alors dans toutes ces tombes, que ce soit des hypogées ou des mégalithes de Méditerranée occidentale, la question qu'on se pose est de savoir si le fait de regrouper des squelettes dans ces monuments montrait qu'il y avait une sorte de démocratisation de l'accès à la tombe. Autrement dit, est-ce que, parce que comme beaucoup de gens semblaient finir en quelque sorte dans la tombe collective, est-ce que ces communautés étaient des communautés, démocratiques, c'est-à-dire où les différences de statut étaient peu marquées? Ça n'est pas du tout mon opinion. Parce que l'on sait maintenant que les objets que l'on trouve dans ces tombes ne sont pas des objets qui sont des offrandes faites à l'ensemble de la communauté des défunts, mais des objets qui sont la possession, n'est-ce pas, qui appartiennent à certains sujets exclusivement. Et notamment, alors évidemment, souvent des carquois de flèches, des poignards de silex, souvent des poignards de cuivre, des idoles, notamment dans le sud de la péninsule ibérique, c'est-à-dire, par exemple, des bois de cerf travaillés, voyez, des idoles en pierre, comme ces deux ici. Donc ces personnages étaient probablement, les personnages que l'on gratifiait de ces objets, étaient des personnages importants. Autrement dit, le fait qu'il s'agisse d'une tombe collective, d'un carreau collectif, ne veut pas dire que la société était nivelée. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, apparaissent de plus en plus, non seulement, par exemple en Andalousie, des sites très importants et souvent des sites fortifiés, comme c'est le cas ici à Los Millares, dans la région d'Almeria, avec cette forteresse, vous voyez, une sorte de barbacane ici, qui est protégée par des bastions, vous voyez ici, et en même temps, on voit qu'à cette époque-là, la guerre prend de plus en plus d'importance, parce que nous retrouvons évidemment beaucoup de sujets dont les os sont percés de flèches. Donc vous voyez, instabilité, protection, et en même temps, probablement, inégalité sociale, bien entendu, qui se traduisent par les dotations dont bénéficient certains sujets. Je prends un autre exemple, qui est en Italie du Sud. Vous voyez ce personnage ici, qui a été enterré. Il est contemporain de l'époque des dolmens, des sujets que vous venez de voir. Mais lui a eu droit à une sépulture individuelle. Dans cette sépulture individuelle, il y avait 4 ou 5 poteries décorées comme celle-ci. Il y avait un carquois avec 8 flèches comme celle-ci. Probablement son arc aussi, mais qui a disparu, parce qu'il est en bois. Un poignard en cuivre et une sorte de sceptre qui fait 50 cm de développement en grès. Donc vous voyez, ça c'est pas un personnage comme tout le monde, je dirais. C'est un personnage important. Et on peut penser aussi que la hiérarchie existe à cette époque-là à travers les temples de Malte. Si vous êtes allé à Malte, vous avez visité les fameux temples mégalithiques qui remontent à cette époque-là. Ce n'est pas des habitats, ce n'est pas des sépultures, ce sont des sanctuaires. Et ces sanctuaires, pour les gérer, ces sanctuaires, il devait y avoir une autorité, probablement des familles en vue, n'est-ce pas, qui étaient les maîtresses de la liturgie et qui, évidemment, avaient un poids social, un poids individuel important sur les gens des diverses communautés de l'île. Et alors là, nous arrivons maintenant aux alentours de 2500 avant notre ère. C'est la fin du néolithique à ce moment-là. On a affaire à des sociétés qui sont des sociétés, avec des personnages importants, sont des sociétés hiérarchisées, mais cette hiérarchisation, elle va d'une certaine façon s'accentuer. Elle va s'accentuer, vous voyez donc, exemple d'une sépulture collective avec probablement déjà des sujets importants là-dedans, mais on n'arrive pas toujours à les distinguer, bien entendu. Mais on va voir apparaître à ce moment-là, vers la fin du néolithique, lors de la transition à l'âge du bronze, en Méditerranée occidentale, un phénomène particulier. Les grands villages comme Los Ullares, ces grandes tombes collectives, tout cela en train de décliner très rapidement. Et on arrive, on passe à des sociétés qui sont des sociétés caractérisées par une plus grande mobilité, caractérisées par l'usage d'un type de vase original qu'on appelle des vases campaniformes, c'est-à-dire en campana et en forme de cloche renversée, et qui sont des sociétés qui valorisent d'une certaine façon, tout au moins idéologiquement, les armes et l'image de guerrier, si vous voulez, avec des poignards en cuivre, avec des pointes de javelot en cuivre, avec des brassards d'archer, c'est-à-dire des prothèses poignées lorsque l'archer est en train de tirer à l'arc. Ces civilisations, cette civilisation du vase campaniforme qui essaime pratiquement dans toute l'Europe occidentale, en effet, met sur le devant, idéologiquement, le mal armé, si je puis dire. Et c'est à partir de ce moment-là que petit à petit on va passer insensiblement à l'âge du bronze. Alors, un dernier point qui me paraît intéressant, c'est qu'à cette époque-là, même si on valorise l'image du guerrier, il n'y a pas de guerrier à temps plein en Occident. On est encore sur la fin du néolithique. Autrement dit, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de guerrier à temps plein. Les premiers guerriers, en quelque sorte, apparaîtront en Occident vers la fin de l'âge du bronze. Mais, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue idéal, déjà, ces sociétés de la fin du néolithique préfigure, annonce d'une certaine façon ce que deviendra plus tard le guerrier à temps plein, celui qui fera de la guerre un tremplin social. Voilà. Merci de votre attention.
Est-ce que ça a été trop long? C'est parfait.